Vous écoutez Secret d'Histoire, Pedro II, le dernier empereur du Brésil. Deuxième partie.
Alors que le Parlement se charge d'organiser la régence jusqu'à sa majorité, l'orphelin de la nation réside au palais de San Cristóvão, non loin de Rio, au milieu d'un vaste parc boisé. C'est ce palais devenu musée national qui a récemment brûlé et où le jeune prince vit en compagnie de ses deux sœurs, Francisca et Janvière.
Malgré la beauté des lieux, il ne va pas courir, grimper aux arbres, sauter comme un enfant de 7, 8 ans aurait fait.
Pierre Léglise Costa, historien.
Il reste là dans ses bureaux, ses salons, ses chambres, certainement élégantes et jolies, mais enfermées, dans lesquelles il lit l'échappatoire. C'est l'échappé, c'était par les livres, par les lectures.
Pour assurer son éducation, le jeune Pedro peut compter sur les trois tuteurs que son père a désignés avant de partir. Bonifacio de Andrade, un homme d'État chevronné, Raphaël, un serviteur dévoué, et Mariana da Verna, sa gouvernante.
Depuis la mort de l'impératrice, en 1826, c'est elle qui s'occupe du petit. Et c'est très important. Elle est à la fois sa gouvernante, sa maman de substitution.
Il l'appelle Dadam, en portugais Dadam. Comme un bébé qui répéterait, c'est pas une dame, c'est la dame. Et chaque fois qu'il y aura un problème qu'il voudra résoudre, c'est vers elle qu'il se tourne.
Elle va essayer de le protéger de la classe politique. Elle n'aime pas les hommes politiques. Il y a des gens qui viennent voir, etc. Mais elle le défend absolument comme une tigresse. C'est son petit à elle.
Et puis, il y a Raphaël. Alors, Raphaël, qui était probablement un esclave et qui a été affranchi, va être un homme de confiance.
Nous sommes tout de même au début du 19e siècle. Choisir un noir affranchi comme tuteur de l'empereur, c'est une révolution. C'est une leçon que donne aussi Pierre Ier à la classe politique brésilienne, où il y a beaucoup de grands propriétaires. Il faut savoir que Pierre Ier, Dom Pedro Ier, est contre l'esclavage. Et ce Raphaël-là, il va être le compagnon de jeu du petit garçon. Il va lui apprendre l'écriture, un certain nombre de choses. C'est un ange gardien. Et c'est vrai qu'il a tout le temps été, tout le temps il était avec l'empereur. Toujours là pour servir son empereur.
L'enfance de Pedro II est certainement une enfance solitaire, malgré ses deux sœurs, Xavier et Francisca, car ces deux sœurs étaient élevées comme des dames, pour être princesse ou pour être reine, élevées dans une forme de gynécée, alors que lui, non. Lui, à part d'Adam, il était entouré d'hommes, et il n'avait pas de petits garçons avec qui jouer.
Il a des professeurs de toute nature, des professeurs d'histoire et géographie, des professeurs de danse. Là. Beaucoup sont français.
Guy Gauthier, historien.
Les trois quarts sont français. C'est l'implantation culturelle de la France. C'est très important, la France. Ces gens-là vont aussi inculquer à Dom Pedro des idées libérales de la Révolution française, voire de la monarchie constitutionnelle. Ça joue un rôle considérable.
Il avait une capacité d'étude et d'assimilation exceptionnelle. Il pouvait rester 7, 8 heures, 9 heures à écouter, à comprendre, à écrire, à lire. Mais tout ça, ce n'est qu'une solitude à la fois morale et physique.
Féru de science, le jeune empereur est également le premier au Brésil à se passionner pour un procédé nouveau, promis au plus grand avenir, la photographie.
Il y a eu une fois un navire de guerre français avec un abbé qui s'appelait l'abbé Comte qui a fait une démonstration du daguerreotype qui venait d'arriver. Hein, c'était à l'époque de Louis-Philippe. Et donc Pedro est sorti de son palais de Saint-Christophe. Il a été assisté à cette représentation. Il a été enthousiasmé. Immédiatement, il a acheté un appareil et à partir de là, il a mitraillé tout le monde jusqu'à la fin de son règne.
Il y a ce fameux autoportrait où il a une vingtaine d'années. où il est debout, et dans une pose volontaire, donc il a dû composer sa photographie, et d'autant plus composée qu'ensuite il fallait mettre l'appareil et probablement sous un système de poire se prendre la photo, ou quelqu'un prenait la photo pour lui. Cet autoportrait est probablement le premier selfie du Brésil, mais un selfie très très sophistiqué par rapport à maintenant.
Avec les années, Dom Pedro, qui perfectionne ses portraits et autoportraits, n'hésitera pas à prendre la pose avec ses livres préférés.
Cette photographie va servir aussi d'appui pour construire ou pour asseoir son image d'un monarque, d'un pays qui marche avec la civilisation. Je pense qu'il est très conscient, en fait, tout au long de son règne, de ce rôle qu'il a à jouer.
Cette passion conduit également Pedro II à réunir tout au long de sa vie une collection de photographies parmi les plus importantes au monde. Dépassant largement les frontières du Brésil, elle offre un panorama complet du XIXe siècle, conservé à la Bibliothèque nationale de Rio.
C'est la collection de Pedro II. Nous avons 25 000 photos et 300 albums.
Thaïs Linhares, conservatrice à la Bibliothèque nationale du Brésil.
Il y a des photos sur les voyages, de botanique, d'anthropologie, des photos d'événements historiques, de la famille impériale aussi. Il y a un peu de tout.
D'une curiosité universelle, Pedro II possède également dans ses collections des trésors de la photographie française. Comme cet extraordinaire album sur les destructions causées par l'insurrection de la Commune de Paris en 1871.
Nous avons aussi dans la collection des photos aériennes qui a fait Nadar, un photographe important aussi français. Il a fait sur un ballon des photos de Versailles. C'était une chose extraordinaire, oui, à l'époque.
Tandis qu'au palais de Saint-Christophe à Rio, l'éducation du jeune empereur se poursuit, le Brésil des années 1830 se montre particulièrement instable. Au Parlement, libéraux et conservateurs se déchirent.
Lorsqu'il se passe des choses graves au Brésil, une province qui proclame son autonomie ou son indépendance, n'est-ce pas? Eh bien, pour rassurer le peuple, les régents sortent l'enfant du palais de Saint-Christophe, qui est loin du centre-ville, et on l'amène au centre de Rio. On le montre au peuple.
On a besoin, à cette époque-là, d'avoir un monarque brésilien. D'ailleurs, il est né au Brésil. On a besoin d'un symbole, puisqu'on était au bord de la Révolution.
Très vite émerge l'idée d'anticiper autant que possible le sacre de Pierre II.
Sébastien Roseau, historien.
De façon à stabiliser le régime, à ce que cet empereur qui occuperait le trône jusque-là vacant incarne par sa personne cette unité et ce prestige lié à la figure de l'empereur.
Les députés et les sénateurs brésiliens qui font le choix maintenant de le mettre sur le trône, ils se déplacent en délégation au palais de Saint-Christophe, on va leur présenter l'empereur. Ce côté un peu timide les émeut, incontestablement, et sa prestance aussi les impressionne. Ils se disent vraiment c'est un très beau gars et ça fera un très bel empereur. Ils lui posent la question, est-ce que vous accepteriez, Majesté, de prendre le pouvoir tout de suite? Et là, il raisonne, mais à il dit, mais la majorité impériale est à 18 ans. Il faudrait réformer la Constitution. Qu'à cela ne tienne, nous nous occupons de cette difficulté. Le tout est de savoir si vous acceptez. Et il va faire un petit oui timide. Voilà, oui, c'est impressionnant. On imagine ce gosse de 14 ans et demi. Oui, il va être empereur du Brésil. De droit, cette fois-ci. Pas seulement de fait.
Au cœur de Rio de Janeiro, l'ancienne chapelle impériale est l'un des derniers vestiges de l'Empire. Le 18 juillet 1841, c'est sous cette voûte baroque très représentative du style colonial portugais qu'a lieu le couronnement de Dom Pedro II, second empereur du Brésil. En cette belle journée de l'hiver austral, le jeune empereur se présente dans un somptueux carrosse, suivant la tradition des monarchies européennes. Grand ordonnateur du cérémonial impérial, le majordome du palais, Paolo Barbossa, se tient ici, au niveau du transept. Il a pensé à tout. Dans les tribunes, les représentants des principales familles de l'Empire ont pris place. Comme au théâtre, on aperçoit d'Adama, Maria da Verna, la chère gouvernante de Pedro, qui continue à veiller sur son protégé. Le jeune empereur est revêtu d'un sublime costume de sacre qui n'a rien à envier à ceux de ses aïeux de la vieille Europe. Pourtant, un détail nous rappelle que nous sommes au Brésil. Les épaules sont couvertes d'un flamboyant manteau de plumes jaunes de toucan, digne d'un chef indien. C'est à l'archevêque de Bahia, primat du Brésil, que revient l'honneur de couronner le souverain à genoux. Sur sa tête, il pose la somptueuse couronne fermée en or, composée de 639 diamants et 77 perles, qui a été commandée pour l'occasion. Pedro II couronné peut désormais s'asseoir sur son trône avec dans sa main droite le sceptre surmonté du dragon des Bragances. Un défi titanesque se dresse devant lui. À la tête d'un empire tout récent, il lui faut maintenant bâtir la nation brésilienne.
Depuis sa prime jeunesse, dans le secret du palais de Saint-Christophe, Pedro II s'est préparé à régner. Au lendemain de son couronnement, il a une priorité, réaffirmer son autorité dans le strict respect de la Constitution.
Il a repris la main, c'est lui qui nomme les gouverneurs de province, c'est lui qui nomme les chefs militaires des régions.
Michel Faure, historien.
Et donc ça a été un premier travail qui était tout à fait fondamental, de ressouder la nation brésilienne qui était tout à fait fragmentée.
Ce qui fait aussi le respect du peuple brésilien et de la classe politique pour l'empereur, c'est que c'est un garçon qui bûche. Il consulte tous les dossiers, il les annote, il amende, il corrige, il ajoute. Dom Pedro est véritablement un démocrate, je dirais même un républicain. Quand il signe ses actes, il signe pas comme la plupart des souverains, Pedro, il signe Emperador. Donc ça veut dire que c'est la fonction qui compte, c'est l'empereur. C'est pas Dom Pedro, c'est l'empereur ce qu'il représente. Il prohibe le terme souverain, il veut pas qu'on l'appelle le souverain. Parce que dans son idée, le seul souverain, c'est le peuple.
C'est un régime qui très vite reconnaît un certain nombre de libertés, en particulier la liberté de la presse, ce qui n'est pas peu de choses hein, au XIXe siècle.
Bon, il était objet de plusieurs caricatures.
Francisco Vieira, historien.
Il a toujours été très libéral du point de vue... Il n'y avait aucune censure.
Il cherche toujours à aller au-delà des querelles partisanes. Il considère que dans un pays comme le Brésil, ce qui compte, ce sont les majorités d'idées. Que vous soyez conservateur ou libéral, peu importe, mais qu'on aille dans le sens de la modernité et du progrès pour le Brésil. Et là-dessus, il mettra tout le monde d'accord.
Pour relever les défis du pays, la Constitution accorde à l'empereur un outil qui n'existe qu'au Brésil, le pouvoir modérateur. Chaque année, au début de l'été, Pedro II, revêtu des attributs de la monarchie, prend place au Sénat sur un trône marqué à son chiffre. Devant le Parlement au grand complet, il prononce le discours du trône. Agissant en véritable chef d'orchestre, il fixe la ligne à suivre pour le gouvernement du Brésil.
Ses objectifs, ce sera l'éducation de son peuple, ce sera la santé, tous les problèmes sanitaires, parce que c'est un pays tropical avec des fièvres terribles. C'est aussi résoudre le problème de l'esclavage qui le heurte beaucoup, parce que c'est un humaniste convaincu.
Territoire gigantesque de plus de 8 millions de kilomètres carrés, le Brésil de Pedro II est en partie inexploré. Afin de mieux connaître son empire, Dom Pedro a créé à Rio l'Institut historique et géographique qui existe encore aujourd'hui. Une institution dont il présidera les séances 506 fois au cours de son règne. et pour laquelle il se montre particulièrement généreux.
L'empereur a acheté et nous a fait don de cet album, qui est un atlas du Brésil.
Carlos Eduardo Barata, directeur de l'Institut historique et géographique du Brésil.
C'est une pièce rare. Il n'y en a que trois dans le monde. Il représente l'intégralité du Brésil, d'un État à l'autre, tel qu'on le connaissait au XVIe siècle, à une époque où il était extrêmement difficile de cartographier. Sur cette carte, par exemple, en suivant la côte brésilienne, nous voilà au nord-est, en direction du nord. Ici, c'est l'immense Amazone, le fleuve Amazone. Cette création divine qui coupe le pays en direction du sud-ouest. Et tout cela se déploie sur cette carte.
Dans la lignée de ses ancêtres, Dom Pedro finance à travers l'Institut de nombreuses expéditions destinées à adapter la géographie du Brésil aux besoins du XIXe siècle.
Il a souhaité actualiser la géographie du pays. En 1842, il a organisé un concours afin de faire réaliser le meilleur livre d'histoire du Brésil et la meilleure cartographie d'ensemble du pays. C'est lui qui récompensait et qui parrainait. Cette carte est celle qui a remporté le concours. C'est la carte du Brésil, œuvre primée du géographe Conrad Jacob Niemeyer, en 1842. On y voit donc pour la première fois, de façon très précise, tout le territoire. La région nord, la région amazonienne, le Pará, la région nord-est, São Luís, le Marana, le Rio Grande do Norte, le Pernambuc. Puis, on redescend jusqu'au sud, dans la région du Prata.
Désireux de ne pas se contenter des livres, Pedro II n'hésite pas à aller en personne à la rencontre de son peuple.
L'empereur voyage dans un certain nombre de provinces et ses voyages sont couronnés de succès. On veut voir l'empereur, on vient le fêter, on lui rend hommage.
Et donc il est intéressé par ce qui fait le peuple brésilien, ce qu'il pense. Il a l'envie de contact avec la population brésilienne. Il organise des audiences, c'est en général des discussions en face à face, avec des personnes qui viennent lui parler de leurs soucis, de leurs réclamations, de leur situation.
Il est en admiration devant ce pays, mais il sait aussi qu'il y a des divergences sociales énormes. Vous avez une bourgeoisie riche, voire une aristocratie d'origine portugaise, vous avez des Africains qui sont esclaves, et des Indiens qui sont totalement ignorés. Or, les Indiens, c'est quand même, dit-il, la première race, la race originelle du Brésil.
Pierre II cultive un intérêt intellectuel pour l'histoire, les langues, les cultures, les religions indigènes.
Il étudiait beaucoup le tupi guarani et il aimait faire des traductions, etc., et d'élaborer des dictionnaires.
Et donc, il va effectivement financer la première mission scientifique brésilienne qui est organisée à la fin des années 50 pour aller mieux connaître justement ces territoires d'Amazonie, du Mato Grosso, du Ceará, pour avoir une connaissance plus fine de cette réalité du monde indigène.
À Paris, le musée des arts premiers conserve de nombreux témoignages des civilisations indiennes du Brésil, tels que Dom Pedro a pu les découvrir. Dont une extraordinaire cape du peuple Tupinambá, collectée au XVIe siècle dans la région de Rio.
C'est un objet très singulier, très étonnant pour l'époque.
Yves Le Fur, conservateur général du patrimoine au musée du Quai Branly Jacques Chirac.
Elle est constituée d'un filet. Sur ce filet ont été fixées des plumes d'ibis rouge et c'est ponctué de toutes petites plumes bleues. C'est une cape extrêmement rare. Il y a une dizaine ou tout au plus d'exemplaires dans le monde.
Pour les parures des Indiens, les plus beaux oiseaux de la forêt sont mis à contribution. Les ibis, mais aussi les perroquets à rats ou les toucans.
Et ils ont développé aussi des techniques comme celle du tapirage. Alors, qu'est-ce que c'est que le tapirage ? C'est une technique qui consiste à enlever les plumes d'un oiseau et soit par des frictions sur la peau, soit en lui faisant ingérer certains types de certaines substances, de changer la couleur naturelle de ses plumes, tout en le laissant vivant, évidemment. Ce sont des ornements qui étaient revêtus, notamment par des prêtres ou des chamans, à l'occasion de rituels, et qui les distinguaient de la nudité de leurs congénères. Donc, il y a aussi une autre idée qui apparaît, le fait de se revêtir d'un plumage et dans l'esprit et le corps même de l'oiseau. Il y a de l'homme dans l'oiseau et il y a de l'oiseau dans l'homme.
L'empereur va mettre en valeur les Indiens du Brésil. Ce que n'ont pas fait les Espagnols, aussi bien au Mexique qu'au Pérou. Il met en valeur cette civilisation.
Cette idée, justement, de retrouver une histoire nationale qui dépasse celle du Portugal et donc celle de la colonisation, implique qu'on donne aux Indiens un rôle particulier. C'est un peuple qu'on déclare très digne, fait dans la main de Dieu, proche de la nature, des gens qui sont des vrais Brésiliens, enfin des premiers Brésiliens.
Il y a l'idée que le Brésil se fonde par la rencontre de trois races, l'indigène, l'autochtone, le colonisateur, le portugais, et puis l'africain, hein, qui a été, malgré lui, en quelque sorte, amené au Brésil. Donc, trois races qui se rencontrent et qui constituent l'identité du Brésil.
Pour faire du Brésil une nation unie, l'empereur développe également les communications. Multipliant les bateaux à vapeur, il installe le télégraphe et fait tracer de nombreuses voies de chemin de fer. Sur une dizaine de milliers de kilomètres, les locomotives de Pedro II désenclavent le pays et facilitent le transport du sucre ou du café. Dernier témoignage de cet âge d'or du rail, le petit train du Corcovado traverse la forêt de Tijuca, au-dessus de Rio. Une autre réalisation de l'empereur Pedro II. Très vite, la ville de Rio se met à manquer d'eau. C'est alors que Dom Pedro a une idée révolutionnaire. Replanter à Tijuca une forêt tropicale.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeaux. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage Camille Legras et Tim Dombouche. Avec la voix d'Isabelle Benadj.